Voilà, bonjour à tous. On est content d'être là encore ce matin avec vous pour pouvoir louer le nom du Seigneur. Dans cette partie, on a parlé de comment que Jésus aime l'Église, hein, comment qu'il la chérit, veut qu'elle puisse se développer pour être justement cette lumière dans le monde. Jésus aime tellement l'Église justement qu'il ne veut pas la soumettre à une contrainte, l'obligation de faire des choses trop difficiles ou impossibles. Puisqu'il est un Dieu qu'il aime, puisqu'il est un Dieu qui est plein d'amour, plein de compassion, il veut qu'on puisse expérimenter cet amour, cette joie, cette grâce, cette bonté, sa fidélité à travers le corps du Christ, à travers l'Église. Jésus a aimé l'Église pour que nous puissions aussi aimer l'Église. Jésus a aimé l'Église pour que nous puissions aussi aimer l'Église à notre tour. Dieu nous a donné tout le monde, tout l'amour à travers Jésus-Christ et désire que nous puissions exprimer cet amour à travers le corps du Christ, à travers l'Église. Ce matin, on va voir un peu la suite des principes d'une Église qui est attachée à Dieu. Alors, c'est vrai que Dieu aime l'Église, Jésus-Christ aime l'Église, nous a tout donné pour que nous puissions faire partie de l'Église, l'Église du corps du Christ, et ainsi aussi l'Église de corps, l'Église locale. Mais il y a certains principes qu'on doit garder pour pouvoir justement être cette Église qui rayonne, cette Église qui continue de partager l'amour de Dieu, qui continue d'être lumière du Seigneur. Nous avons vu la semaine passée le chapitre de Romains, chapitre 12, verset 2. Ouvrons notre Bible dans Romains, chapitre 12, verset 2. On a pris aussi ce texte vendredi soir lors de la rencontre de prière, soirée Impact Prière, parce que nous voulons que ce texte soit un peu comme un texte clé pour nous durant cet été. Romains, chapitre 12, verset 1 et 2, on aimerait que vraiment ce texte puisse nous inspirer durant cet été, nous puisse nous renouveler comme il est écrit. Donc, Romains chapitre 12, verset 2, il dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez pleinement transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Prions. Seigneur, on te remercie pour ce moment de partage que nous allons avoir aussi à travers ta parole. Permets que, Seigneur, notre esprit, notre cœur puisse vraiment être tourné vers toi, afin qu'on puisse se comprendre, saisir ce que tu veux nous dire. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, nous parle directement. Ce soit ton esprit qui parle même à travers ma bouche, pour que, Seigneur, soit tes paroles, afin que, Seigneur, elle puisse, Seigneur, rentrer dans notre cœur, dans notre intelligence, et puisse nous transformer, nous renouveler, afin que, Seigneur, nous puissions aller de l'avant avec toi. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole est vivante. Nous te remercions parce que nous pouvons encore ce matin librement venir devant toi, librement de pouvoir étudier, comprendre, saisir ce que tu veux nous dire et de pouvoir le mettre aussi en action par ton nom puissant, Seigneur. Merci, merci. Amen, amen. Donc, le texte de la traduction seconde va dire « Ne vous conformez pas au monde présent ». Donc, cette phrase explique justement que le soi-disant, on peut être soi-disant chrétien, avoir un habit chrétien de l'extérieur, mais que son être ou sa façon de vivre ne reflète pas du tout Dieu dans le monde actuel. C'est comme si on se fie au monde actuel, on a les pensées de ce monde, mais on a un habit chrétien. On veut démontrer qu'on est chrétien, qu'on veut suivre Dieu, mais on continue de suivre la pensée de ce monde. Donc un esprit renouvelé et imprégné de la parole de Dieu, elle est contrôlée par elle. La parole de Dieu nous transforme pour que nous ne soyons pas juste des chrétiens de surface, mais des hommes et des femmes qui laissent vraiment le Saint-Esprit travailler en profondeur pour nous transformer, pour permettre d'avoir les pensées de notre Seigneur, d'avoir un esprit qui soit renouvelé dans la présence de notre Dieu. Donc maintenant, regardons quelques principes importants pour l'Église. Le premier, l'Église doit prier et jeûner pour libérer le pouvoir de Dieu, pour faire avancer son royaume dans le monde. L'Église doit prier et jeûner pour libérer le pouvoir de Dieu, pour faire avancer son royaume dans le monde. C'est vrai que c'est un principe tellement important, mais souvent négligé dans nos églises. Oui, on sait qu'on a besoin de nécessité de prier en tant qu'Église, mais souvent, des fois, on ne met pas le moyen réel pour le faire. C'est vrai que la prière reste un combat. Dans le sens que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Déjà, de le faire seul à la maison, ce n'est pas évident de pouvoir prendre du temps de prier, d'intercéder, de rester à l'écoute de Dieu, de rester dans la présence de Dieu, de contempler et adorer Dieu. Mais le faire en tant qu'Église aussi, on peut le faire machinalement, mais de le faire d'une façon qui soit vraiment, qui permette de libérer le pouvoir de Dieu, de libérer la puissance de Dieu, ce n'est pas quelque chose forcément évident. Mais regardez justement Jésus, comment il prend le temps de prier, comment il prend le temps de jeûner pour l'avancement de son ministère. Même s'il était Dieu, en tant qu'homme, il était Dieu aussi homme, il avait besoin de prendre ce temps avec son Père Céleste, de prendre ce temps de retrait pour pouvoir se consacrer à son Dieu, pour pouvoir écouter Dieu, pour pouvoir se reposer en lui, pour pouvoir reprendre des forces, pour pouvoir aller de l'avant pour la suite. Chaque fois qu'il devait prendre une décision importante, chaque fois qu'il était fatigué par rapport au ministère parce qu'il avait beaucoup de besoins, beaucoup de demandes qui étaient autour de lui, il prend des temps avec son Père. Ce soit quelques temps, ça peut être des fois même toute la nuit, on le voit qu'il se retire dans le désert, il se retire sur une montagne. Et même au début de son ministère, il va prendre 40 jours de jeûne et de prière. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à cet événement de 40 jours de jeûne et de prière? Regardez Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit. Le temps qu'il a passé dans la présence de Dieu durant ces 40 jours, même s'il a été tenté, il a vaincu la tentation parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. Rempli de l'Esprit de Dieu, il peut continuer, il peut maintenant communiquer même son ministère et avoir de l'impact autour de lui. On a besoin de ne pas nous relâcher afin qu'on puisse mettre en place le royaume de Dieu ici sur Terre, sur Saint-Henri, sur Montréal. C'est vrai qu'on ne va pas le faire tout seul, mais l'ensemble des chrétiens qui cherchent réellement Dieu, qui vont faire sa volonté, alors le Saint-Esprit va se révéler, va leur donner cette puissance. Voilà pourquoi on continue justement notre rencontre de prière à midi. Voilà pourquoi qu'une fois par mois, comme nous l'avons fait en vendredi soir, on a cette soirée Impact Prière. Parce qu'on croit que c'est important en tant que disciple, en tant que chrétien, en tant qu'église, de pouvoir se réunir pour prier, intercéder, pour rester à l'écoute du Seigneur. Et nous espérons qu'après l'été, on puisse continuer d'autres façons de prier en tant qu'église, de développer d'autres façons pour qu'on prenne cette habitude, autant dans le culte, autant avant le culte, autant dans d'autres façons qu'on puisse rester dans la prière, afin que Dieu se révèle, afin que nous puissions développer cette puissance que le Seigneur nous donne. Un autre point que nous voyons, l'Église doit redevenir attirante pour que les perdus veuillent ce qu'elle possède. L'Église doit redevenir attirante pour que les perdus veuillent ce qu'elle possède. C'est-à-dire qu'on est peut-être plus attirant avec les moyens que nous possédons en tant qu'humains, et même des fois en tant qu'Église. On essaye beaucoup de choses, et on a vu que les gens ne venaient pas forcément plus à l'Église. J'aime beaucoup ce mot « redevenir ». Ça veut dire que justement, il y a quelque chose qu'on doit refaire, quelque chose que peut-être qu'on a manqué, quelque chose qu'on a oublié et qu'on doit refaire, redevenir attirante. Il faut que l'Église redevienne un lieu où on adore Dieu, où il y a des choses qui se passent dans la puissance de Dieu. Si on vit dans la vérité de Dieu, si on veut agir pleinement selon ce que le Seigneur veut, ça va changer notre manière de voir et de faire les choses. Ça va avoir un impact vers les autres. C'est vrai qu'en tant qu'Église, on fait toutes sortes de programmes d'activités pour attirer les gens. Et ça peut marcher des fois. Mais si les gens ne voient pas en nous ce changement qui impacte notre vie, notre propre vie, alors ils risquent de ne pas rester. Vous savez, aujourd'hui, l'Église ne peut pas compétitionner le monde autour de nous. On ne peut pas attirer le monde. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de grands concerts, on peut faire de soirées d'évangélisation, on peut faire toutes sortes de choses en tant qu'Église. Mais on n'arrivera pas à compétitionner le monde. Le monde offre toujours meilleur que nous. Alors, il faut que les gens puissent venir à l'Église dans le sens qu'ils vont venir chercher quelque chose de plus que juste peut-être ce qui est en surface. Ils veulent voir que ce que nous vivons réellement peut changer leur vie. Redevenir attirant, ça veut dire que lorsque nous sommes enflammés par Dieu, les gens vont venir vers nous. Regardez ce qui s'est passé au début de l'année avec le réveil à Asbury. Rappelez-vous, hein, ces jeunes étudiants dans cette université méthodiste aux États-Unis, à un moment donné, après le culte régulier qu'ils avaient à chaque semaine dans le sanctuaire, sont restés et ils ont commencé à prier, ont commencé à se repentir, à confesser. Et les gens restaient là pendant des heures, et les étudiants commençaient à venir, et commençaient, vous savez, aujourd'hui avec avec les médias sociaux, tout le monde dit, venez voir, il se passe quelque chose à l'intérieur du sanctuaire, il se passe quelque chose avec ces jeunes. Et tellement que, des jours après, il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont venues à travers les États-Unis, même à travers le monde. J'ai entendu des gens qui ont même pris l'avion de la Corée du Sud pour pouvoir venir aux États-Unis pour pouvoir voir ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Ces jeunes, ils n'avaient pas plus, ils n'ont pas fait quelque chose d'attirant, ils n'ont pas fait quelque chose pour attirer le regard. Ils n'ont pas fait une belle louange ou quelque chose de merveilleux. Ils sont simplement restés dans la présence de Dieu. Et la puissance de Dieu s'est révélée. Et les gens ont voulu accourir pour pouvoir voir ce que le Seigneur voulait leur donner. On sait que dans l'Esprit de Dieu, a dit à Jean dans l'Apocalypse, plusieurs lettres aux différentes églises. Pour l'église d'Éphèse, justement, elle possédait de grandes choses devant Dieu. Elle avait une bonne conduite, elle avait de la persévérance, elle a mis l'épreuve ceux qui se prétendaient apôtres, elle a décelé le mensonge. Mais qu'est-ce que va dire l'Église, qu'est-ce que va dire l'Esprit de Dieu à cette Église comme reproche? Ouvrons notre Bible dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. Voici le reproche que l'Esprit de Dieu va dire à cette Église. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Ce que l'Esprit va lui reprocher, c'est qu'il a perdu son premier amour. Cette église fonctionnait peut-être d'une manière incroyable, mais elle n'avait plus d'éclat qu'elle ne devait plus avoir pour le Seigneur, car les membres avaient perdu leur premier amour. La ferveur, la passion des Éphésiens pour Christ était venue comme une orthodoxie, foi des mécaniques. Ils allaient à l'église parce qu'il fallait le faire. Leur pureté morale et doctrinale, leur zèle toujours aussi grand en faveur de la vérité, leur service discipliné ne pouvait pas remplacer l'amour du Christ qu'ils avaient perdu. Ils pouvaient faire beaucoup de choses, mais le véritable amour, la véritable pourquoi qu'ils venaient à l'église, ils l'avaient perdu. Voilà l'importance que nous avons vue comme justement vendredi soir lors d'une soirée à Pâques prière. Comme on l'a lu au début de la prédication de ce verset de Romains 12, d'être renouvelé, d'avoir une intelligence nouvelle. C'est-à-dire de ne pas faire les choses comme auparavant, mais de revenir à notre premier amour, de revenir un chrétien passionné pour Dieu, pour les perdus, pour l'Église. Alors à ce moment-là, les gens vont s'intéresser à l'Évangile, car ils verront l'impact de ce que ça a eu en nous. Et ils voudront aussi le posséder. Un autre point, l'Église doit renouer avec Jésus, avec le sceptre, pour conserver le fruit qu'elle possède. L'Église doit renouer avec Jésus, avec le sceptre, pour conserver le fruit qu'elle possède. Voilà l'importance de renouer avec celui qui nous a tout donné, celui qui possède tout et qui nous donne gratuitement. Jésus nous a tout donné et désire qu'on puisse le partager autour de nous pour avoir cette vie abondante. Et justement, ce texte de Jean chapitre 15, ouvrons notre Bible dans Jean chapitre 15, où Jésus va prendre l'exemple de la vigne, de l'importance de porter du fruit. Jésus va dire dans le chapitre 15, tout au début, qu'il est le seul cèpe, le seul tronc où les sarments ou les branches vont s'accrocher, vont se ressourcer, vont chercher la nourriture qu'ils ont besoin pour porter du fruit. Donc cet enseignement, Jésus ne va pas se contenter de dire qu'il faut porter du fruit. Il veut que nous portions encore plus de fruits, beaucoup plus de fruits. Jean chapitre 15, verset 2 dit, « Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. » Donc il dit qu'il taille les sarments qui portent peu de fruits, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Lorsque justement le vigneron va tailler sa vigne au printemps, il revigore la branche qui est taillée, afin qu'elle porte du fruit de qualité. Il ne veut pas juste avoir des branches, puis avoir juste des feuilles. Il veut avoir le fruit. Voilà pourquoi qu'il coupe. Voilà pourquoi que des fois, ça fait mal. Mais lorsque le Seigneur Jésus nous taille, ça nous permet de pouvoir porter du fruit encore plus pour sa gloire. Mais pour porter du fruit, un terme que nous voyons beaucoup dans ce chapitre 15, c'est le mot « demeurer ». Il faut demeurer dans l'amour de Dieu. Il faut demeurer sur le cèpe qui nous donne la vie pour porter du fruit. Regardez Jean chapitre 15, verset 4. « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. En serment qui ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au serment. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Donc, demeurer ne pas simplement juste dire rester tranquille dans la présence de Dieu, mais demeurer dans le Seigneur, ça veut dire qu'il va nous tailler pour que nous portions encore plus de fruits. Il veut qu'on demeure encore plus, jour après jour, plus dans sa présence. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi sert-il d'accueillir des convertis par la porte d'entrée, donc par la porte devant, si nous les perdons par la porte arrière? On entend souvent des fois cette expression, ça veut dire, si nous accueillons des gens à l'église, par la porte en entrée, ils viennent. Pourquoi qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent par la porte en arrière? Après un certain temps, ils sont plus intéressés, ils ne demeurent pas, peut-être pas dans le Seigneur, et ils quittent par la porte en arrière. Lorsque nous sommes avec d'autres pasteurs dans des rencontres, souvent, cette question qui nous vient beaucoup, pourquoi autant de personnes quittent l'église par la porte en arrière? Mais la réponse, ce n'est pas l'église qui doit retenir les personnes, c'est Jésus. L'église peut faire beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que peut-être des fois l'église n'est pas à la hauteur, des fois que l'église peut pécher, l'église peut peut-être manquer de sagesse, peut blesser les gens, puis les gens peuvent partir frustrés. Mais principalement, ce qui retient les gens à l'église, c'est Jésus. L'église peut faire toutes sortes de moyens pour que les gens se sentent bien à l'église, faire toutes sortes d'activités, de programmes pour essayer de les satisfaire. Mais souvent, c'est peine perdue. Mais comme on le voit dans ce chapitre 15 de Jean, il faut que chaque chrétien demeure en Jésus et porte du fruit. S'il ne porte pas de fruit, il va venir sec et va quitter l'église, parce que l'église n'aura pas de solution pour lui. Jean chapitre 15, verset 6, il dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vidable. Comme les serments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. » La parole est dure, mais c'est la réalité. Si nous ne restons pas réellement attachés au Seigneur, si comme dans le point 2, nous ne sommes plus attirés par Dieu, ou comme dans l'exemple de l'église d'Éphèse, nous avons perdu le premier amour, alors c'est plus souvent possible que nous allons partir de l'église. Et nous l'avons vu justement dans ces dernières années, surtout à travers la pandémie. On a dit qu'entre 20 et 30% des chrétiens ne sont pas revenus à l'église après la pandémie. Donc ça démontre que ces chrétiens, une partie de ces personnes n'ont pas su demeurer en Dieu, n'ont pas su porter du fruit. Alors oui, c'est vrai qu'en tant qu'église, on doit savoir pourquoi que les gens quittent par la porte en arrière l'église et de voir ce que nous pouvons changer, ce que nous pouvons améliorer ou se laisser transformer pour pouvoir mieux retenir les gens. Mais la plupart des réponses, c'est que notre vie ne demeure pas réellement Christ, que nous ne portons pas du fruit ou peu de fruits. Voilà pourquoi qu'à un moment donné, les personnes se fatiguent. Voilà pourquoi qu'à un moment donné, l'Église ne répond plus à leurs besoins et ils vont chercher ailleurs. Alors des fois, on est désespéré. On se décourage et on abandonne l'Église. Mais c'est là où le lieu, où la puissance de Dieu doit se manifester, comme on l'a dit dans le premier point. L'Église doit redécouvrir le jeûne, la prière, pour que Dieu se révèle, pour que Dieu amène sa puissance. Un autre point que nous voyons, l'Église doit équiper les saints pour former les disciples, pour les amener à Christ, puis à suivre Christ. L'Église doit équiper les saints pour former les disciples, pour les amener à Christ, puis à suivre Christ. On voit deux points dans cette phrase. Et il y a une différence entre les amener à Christ et à suivre Christ. Oui, c'est vrai qu'on doit amener les personnes à Christ, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles viennent vers Jésus, afin qu'ils connaissent Jésus-Christ personnellement, afin qu'ils voient qu'est-ce que Dieu peut faire pour eux. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, de venir vers Jésus nous permet d'avoir ce repos, de nous décharger de tous nos soucis, de tous nos problèmes, et c'est très bon. Mais ensuite, il faut que ces personnes puissent grandir dans ce repos. Il faut qu'ils puissent, jour après jour, continuer de se reposer dans le Seigneur. Dans le sens qu'ils doivent grandir en lui. Pour pouvoir comprendre comment mieux profiter de ce repos, mieux profiter de l'abondance que Dieu veut nous donner à travers notre vie. Voilà l'importance que les personnes qui sont amenées à Christ doivent suivre après Christ. c'est-à-dire d'obéir à la parole de Dieu, suivre sa volonté. Il y a le premier, on amène la personne à Christ, mais après la personne doit suivre Christ. Souvent, des fois, on amène les gens à Christ, mais ces personnes ne suivent pas réellement Jésus, ne viennent pas réellement des véritables disciples de Jésus. Et on parle à travers ça de la sanctification, le fait de demeurer en Dieu. Comme Jésus a dit dans ce chapitre 15, plusieurs fois, il dit demeurer. Donc, il sait l'importance de demeurer, il sait l'importance de défi, de continuer de suivre Christ pour porter du fruit en abondance. Nous avons besoin de devenir de véritables disciples, c'est-à-dire de suivre le Maître Jésus-Christ, afin que notre vie soit transformée, afin que nous puissions aussi avoir un impact vers les autres. Un verset qui m'a interpellé cette semaine, prochain dia, qui va dans le sens de suivre réellement Dieu, Jésus dit, on peut ouvrir notre Bible, Matthieu chapitre 7, verset 21-23. Ouvrons notre Bible parce que c'est un texte qui est vraiment important. Matthieu chapitre 7, verset 21-23. Voici ce que Jésus va dire dans le sermon sur la montagne. Il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Jésus va s'adresser à des personnes qui ont été amenées vers Jésus, mais qui n'ont pas suivi Jésus. Et c'est vraiment fort comme parole. Ces personnes ont prophétisé au nom de Jésus, ont dit des paroles au nom de Jésus. Ça veut dire qu'ils connaissaient Jésus, ils connaissaient son enseignement. Ces personnes ont même chassé des démons au nom de Jésus et ça marchait. Qui aimerait aujourd'hui pouvoir chasser des démons? Qui aimerait avoir cette autorité de chasser des démons? On aimerait tous. Hein? Ces personnes ont même fait beaucoup de miracles. Donc, ils ont été vus, ils ont été admirés par les nombreux miracles qu'ils ont accomplis au nom de Jésus. Qui aimerait aujourd'hui encore, nous, faire des miracles? La déclaration de Jésus est après très forte. Est pleine de vérité. Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Donc ces personnes se disaient chrétiennes. Ils avaient une certaine reconnaissance parce qu'ils ont prophétisé. Ils ont chassé des démons, ils ont fait des miracles. Mais malgré cela, ils sont déclarés mauvais et que Jésus ne les connaissait pas. On peut se poser la question quand on lit ce texte. Comment que Dieu permet que des personnes puissent agir au nom de Jésus, faire de grandes choses et qui n'ont pas connu Jésus? C'est vrai que Dieu peut utiliser toutes sortes de personnes à travers différents dons, différents talents, différents, selon ou dans son cheminement, selon sa personne. Même des gens qui font le mal, Dieu peut les utiliser pour faire le bien. Mais ces personnes sont loin de la volonté de Dieu. J'ai connu moi-même un leader chrétien qui vivait dans l'adultère. Mais chaque fois qu'il faisait des soirées d'évangélisation, il y avait des gens qui se convertissaient. Dieu utilisait cet homme pour convertir les gens. Mais lui-même n'était pas dans la vérité. Nous connaissons tous des prédicateurs, des prophètes, des pasteurs que nous voyons souvent sur YouTube, qui prophétisent, qui guérissent des personnes. Mais une partie de ces personnes ne sont pas en Christ, parce qu'ils ne portent pas de fruits réels. Et c'est quoi la raison principale pourquoi que ces personnes n'ont pas accepté Jésus-Christ? On le trouve justement dans la première phrase de la verset que nous avons lu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, de cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Jésus va dire, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Pour accomplir la volonté du Père céleste, c'est-à-dire qu'il faut obéir à Dieu. Il faut regarder la parole, il faut qu'on porte du fruit. Il faut vraiment que nos actes, il faut vraiment que nos personnes puissent vraiment resplendir de la présence de Dieu. Il faut que quand les gens nous voient agir, parler, ils voient que c'est Dieu qui agit à travers nous. Alors, il y a des gens, il y a des prédicateurs, des prophètes qui, devant la scène, ont l'impression d'être des grands chrétiens ou des gens qui sont vraiment sous le regard de Dieu. Mais lorsqu'on regarde leur vie, jour après jour, lorsqu'on regarde comment ils agissent avec l'argent, comment ils agissent pour pouvoir tromper le monde, comment ils font des choses par derrière, nous voyons qu'ils ne portent pas réellement du fruit. Voilà pourquoi, comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 12, verset 2, mais soyez pleinement transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Oui, c'est vrai que lorsqu'on va se retrouver devant le Seigneur, il y aura des cris, il y aura des pleurs. Parce qu'il y aura des personnes qui pensaient qu'ils étaient dans le Seigneur, qui pensaient qu'ils avaient une bonne attitude, ils faisaient des bonnes choses pour Dieu. Mais ils ne portaient pas réellement le fruit. Ils n'arrivaient pas à discerner réellement la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait, et de le suivre. Donc voilà pourquoi on a besoin de demeurer à Christ. Voilà pourquoi on a besoin de rester sur le cercle, de porter du fruit, pour comprendre la volonté de Dieu et la mettre en pratique. Donc pour terminer, la semaine passée, nous avons vu trois clés indispensables à la connaissance de la volonté de Dieu à travers le texte de Romains 12. Premièrement, on voit un corps offert. On le voit dans le verset 1 de Romains 12. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Seigneur, est-ce que je peux t'offrir mon corps qui est sain, un sacrifice vivant qui plaît à Dieu? Est-ce que tout ce que je fais t'honore, te glorifie? Est-ce que mes paroles disent quelque chose, mais mes attitudes disent autre chose? Est-ce que devant les autres, je montre que je suis un bon chrétien, mais derrière, je fais les choses comme le monde? Je reste dans le monde présent. Je reste influencé par la pensée de ce monde. Nous devons donner notre vie à Dieu comme un sacrifice, c'est-à-dire entièrement, tout notre être, tout notre corps, pour refléter la grâce et la bonté de Dieu. Lorsque nous le faisons, alors nous accomplissons la volonté de Dieu. Le deuxième point, une vie séparée du monde. Comme on l'a mentionné auparavant, nous ne pouvons pas dire que nous appartenons à Christ tout en vivant comme le monde le propose. Parce que le monde aujourd'hui ne suit pas les préceptes de Dieu, mais suit ce que l'ennemi, Satan, demande. Jean chapitre 15, verset 19, « Vous n'appartenez pas au monde, sinon le monde vous aimerait, parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde, et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. » Est-ce que ma vie reflète que je suis séparé de ce monde? Oui, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Dans le sens de dire, Seigneur, je veux que ma vie, je veux que mes actes, mes paroles te reflètent, que je puisse porter du fruit, non pas selon le monde, mais selon toi. Et le troisième point, prochain diable, une intelligence transformée, renouvelée. Donc pour arriver à offrir notre corps comme un sacrifice qui est saint, agréable à Dieu, on doit avant tout que notre intelligence, notre esprit soit transformé par la présence de Dieu et par sa volonté. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, on doit demander à Dieu d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu, afin d'être capable d'être cette Église, selon le cœur de Dieu, selon sa volonté. D'être capable de discerner ce que le Saint-Esprit veut nous dire, de comment appartenir à ce royaume de Dieu, de comment le vivre, de comment le partager autour de nous. Nous devons suivre Jésus d'une manière continue et complète comme un véritable disciple. Nous devons continuellement être à l'écoute de Dieu, afin de discerner sa volonté, autant pour nous personnellement que pour l'Église. On ne peut pas jouer avec Dieu. Lui, il connaît tout, il sait tout. Voilà pourquoi il nous donne sa parole, pour que nous soyons avertis, pour qu'on soit changés, transformés. Donc chacun de nous, nous sommes l'Église. Nous avons tous une responsabilité de répondre à cette question que Jésus va nous poser ce matin. Est-ce que tu veux te renouveler ce matin pour ne pas suivre le modèle de ce monde? Est-ce que tu veux recevoir une intelligence renouvelée, une intelligence nouvelle, afin de comprendre ce que le Seigneur attend de toi, de ce que le Saint-Esprit veut te dire par la volonté de Dieu? Alors simplement, couvrons notre tête. Ce matin, nous avons l'occasion de prendre aussi la Sainte-Cène tous ensemble, de se rappeler que Jésus a tout donné sur la croix. Et nous demande en retour de l'aimer, de venir vers lui et de suivre Christ en tout point de vue, de toute notre aide, de tout notre corps. Alors sommes-nous prêts ce matin encore, lorsque nous allons prendre cette sainte scène, dire Seigneur, je reconnais que j'ai peut-être encore des manquements, je reconnais que peut-être des fois je viens vers toi mais je ne te suis pas, je ne suis pas vraiment ta volonté, je ne désire pas vraiment connaître ta volonté parce que peut-être ce sera en contradiction avec ce que je vis avec le monde. Le Seigneur nous invite ce matin à venir dans la présence de Dieu à travers ce repas, à travers ces éléments pour simplement dire, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon corps, je remets mes péchés, mes manquements, mon infidélité. Je les mets au pied de la croix parce que tu es mort pour cela, afin que je puisse te suivre d'une nouveauté de vie. Nous pouvons aussi dire, Seigneur, je désire être renouvelé dans mon esprit. Je veux avoir une nouvelle passion pour toi. Peut-être que oui, je suis fatigué au début de cet été d'une fatigue physique à cause du travail, à cause d'autres choses. Mais donne-moi le repos en toi. Donne-moi une nouvelle force en toi. Donne-moi un esprit qui est renouvelé, une passion renouvelée en toi. Donne-moi ce premier amour que j'avais, que j'ai peut-être oublié, que j'ai peut-être perdu. Alors le Seigneur nous donne cette possibilité ce matin de pouvoir le chercher encore et de pouvoir le trouver à travers ce repas. Alors nous allons prendre un chant, nous allons demander à la chorale de venir devant et on va chanter un chant pour nous préparer. Et laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Si on a besoin justement d'être transformé, si on a besoin de dire Seigneur, je ne suis pas digne d'être devant toi. Oui, je te suis depuis des années, mais j'ai perdu ce premier amour. Oui, peut-être que j'ai fait des choses qui ne te glorifient pas. Oui, j'ai des pensées pour toi, mais j'ai aussi des pensées de ce monde. Alors, c'est le temps de dire, Seigneur, je te remets en toi tout, pour que je puisse être transformé, renouvelé. Mais Jésus a tout accompli il y a 2000 ans et nous permet de pouvoir nous rappeler ce qu'il a fait et de pouvoir aussi encore bénéficier de cette grâce, de cet amour encore aujourd'hui. Alors, pour notre cœur, notre esprit, à entendre ce qu'il peut nous dire, que nous puissions prendre ces éléments pour être renouvelés, régénérés dans notre personne, renouveler notre esprit, redécouvrir l'amour, le véritable amour que notre Seigneur nous a donné. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur de toutes choses, juge de tous les humains, nous confessons que nous avons péché et que nous sommes profondément attristés en pensant à toutes les choses mauvaises de notre vie passée. Nous avons péché contre toi, ô Dieu Saint, et contre ton amour. Nous ne méritons que ton indignation et ta colère. Nous nous repentons et nous regrettons profondément d'avoir mal agi et ne pas avoir accompli les actes que nous aurions dû faire. Nos cœurs sont contrits et nous reconnaissons que nous sommes désespérés sans ta grâce. Accorde-nous ta clémence, Père miséricordieux. Pardonne-nous par égard pour ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Pardonne-nous, purifie-nous. Donne-nous la force de te servir et te plaire en nouveauté de vie, en t'honorant et en louant ton nom, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Entends-nous, ô Père miséricordieux, car nous te demandons humblement de nous accorder, en prenant ce pain et cette coupe, comme il a ordonné en mémoire de sa passion et de sa mort, de participer à son sang et à son corps très saint. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit en donnant à ses disciples en disant, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Même après le repas, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Nous sommes la nouvelle alliance qui est répandue pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Seigneur, on te remercie pour ce rappel à travers la Sainte Cène de tout ce que tu as fait pour nous. Ce sacrifice que tu as fait, tu as offert ton sang pour nous libérer, pour nous toucher, pour nous permettre de pouvoir être en nouveauté de vie avec toi. Nous voulons te remercier, Seigneur, ce matin, que tu veux encore, Seigneur, nous renouveler. Tu désires encore que nous puissions vraiment être passionnés pour toi, que nous puissions retrouver cet amour que peut-être nous avons perdu. Permets, Seigneur, que cette semaine, dès que nous franchissons cette porte, que nous puissions être un véritable témoin, un disciple de toi. Que nous puissions, Seigneur Jésus, que notre vie puisse attirer les autres vers toi. Que nos paroles, nos actions et témoignages puissent vraiment te refléter, toi seul. Alors merci, merci pour ce rappel de cette Sainte Cène, de ce repas qui nous permet d'être changés, libérés, transformés. Nous t'avons laissé, Seigneur, tous nos manquements. Nous avons laissé peut-être notre contrôle de notre propre vie pour te laisser, Seigneur, agir, pour que le Saint-Esprit puisse continuer, Seigneur, te refléter, que le Saint-Esprit puisse continuer de nous montrer le chemin, la volonté de notre Père. Alors merci, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Merci pour ce rappel à travers ta parole que nous avons besoin de porter du fruit pour ta seule gloire. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes qui attirent à toi. Aide-nous à être une église qui attire à toi, une église qui est vivante, une église qui est passionnée pour toi. Alors merci, parce que c'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous donne ta puissance. Nous voulons continuer, Seigneur, de marcher à ta suite jusqu'à ton retour et que nous puissions rester dans cette joie, dans cette paix, cette confiance que tu es là, que tu veilles sur nous aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour et que tu continues de mettre ta main sur chacun de nous. Nous avons pris ça dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Amen.